Salut à tous! Bienvenue sur le podcast des désorientés pour tous ceux qui veulent se poser les bonnes questions sur leur futur métier. Aujourd'hui, c'est un nouvel épisode.
Les retours de patients, j'en ai plein. Et oui, j'ai soit des patients qui vont venir me montrer leur bébé. Donc ça, c'est vraiment la satisfaction. C'est-à-dire que moi, je suis contente parce que j'ai pris une spécialité. Dans la médecine, il y a plein de spécialités. Hein. Mais la spécialité que j'ai prise, c'est une spécialité pas triste, en fait.
Vous avez entendu ? C'est Colline qui vient de parler. Colline, c'est une brillante gynécologue et responsable d'une unité spécialisée dans la PMA. PMA, ça veut dire procréation médicalement assistée. Comme à chaque épisode, je suis ravie d'enquêter sur son métier et d'avoir avec elle une discussion de fond, sans tabou et sans langue de bois. Bonjour Colline, comment vas-tu ?
Très bien, merci.
Alors, je suis vraiment ravie de faire cet épisode de podcast avec toi sur un métier qui est hyper impressionnant pour moi. Donc, tu es responsable de l'unité en charge de la PMA dans un hôpital dans pas loin de Paris. Et tu as aussi des fonctions de gynécologue en cabinet, si je ne me trompe pas.
Exactement. Ouais, je suis Colline Chao. Je suis responsable de l'unité de fertilité, centre de médical à la procréation. Dans un hôpital près de Paris, effectivement, et j'ai une petite activité libérale parce que je suis quand même de formation gynéco, mais donc spécialisée dans la fertilité.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, comme si on était un enfant de 8 ans, en quoi ça consiste ce métier ? Soit l'un et l'autre, s'il y a des pratiques qui sont différentes, soit de manière générale, si en fait ça se recoupe.
D'accord. Alors, Déjà, à la base, donc, je suis gynécologue avant d'être spécialisée. Donc, la gynécologie, c'est la prise en charge de la santé de la femme en général. On va dire que ça soit de l'adolescente jusqu'à la femme ménopausée. Donc, voilà. Et donc, toute cette partie puberté, après on passe à la phase maman et puis à la phase on n'est plus maman, mais après on est sur la cinquantaine et l'âge de la ménopause et tout ce qui va avec. Et donc moi j'ai une petite casquette supplémentaire où je me suis spécialisée pour les patientes qui ont du mal à être enceintes.
D'accord. Mais tu dis que ça concerne les femmes, mais ça concerne aussi les hommes, en tout cas la partie fertilité.
PMA, oui, la partie aide à la fertilité. Effectivement, là, on n'est plus sur du couple. Ça veut dire que c'est un couple qui nous consulte pour un désir d'enfant, une difficulté à concevoir.
Top. Alors, on commence toujours avec ton parcours. Comment est-ce qu'on en arrive là ? Depuis le bac, si tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe pour accéder à ce métier.
Alors, du coup, bac scientifique. Et après, faculté de médecine, donc tout le monde connaît assez bien, même si même quand on a 15, 16, 17 ans, on sait que les études de médecine, c'est assez long. Donc, je confirme que c'est long. Et du coup, on démarre avec notamment la première année de médecine. Bon, depuis que j'ai passé la première année de médecine, ça a bien changé. Je me mets un peu à jour, mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une première année médicale un peu commune à plusieurs métiers médicaux qui sont médecins, sages-femmes, dentistes, pharmaciens. Enfin, ils ont une première année qui est un peu commune. Ensuite, je pense que c'est fonction un peu du classement, bien sûr. Et donc, après, on rentre dans les études médicales qui durent à peu près 10 ans au total.
Ah oui.
Sachant qu'après 6 ans, on commence à être interne. Donc, avant, c'est vraiment études, stage. Et puis à partir de la 7e année, on devient interne. Donc, interne en médecine, qu'est-ce que c'est ? On est à l'hôpital. Et après, on a moins de cours. On est vraiment un levier, un pied à l'hôpital complet.
Et alors, quand est-ce qu'on se spécialise ?
Vers la 7e année interne, quand tu es interne. Donc, en fait, on a un premier examen vraiment important pour passer dans la médecine, c'est la première année. Et puis, on a un deuxième examen, c'est à la 6e année. Et ça aussi, c'est fonction du classement et aussi donc de la spécialité laquelle on va prendre. Ça veut dire, est-ce qu'on veut être médecin généraliste, chirurgien, gynéco, anesthésiste ? C'est à ce moment-là que ça se choisit. Et donc, après la 7e année, quand on est interne, on est déjà interne dans sa spécialité.
D'accord. Est-ce que tu dirais que la spécialité de gynécologie, elle est plus compétitive, moins compétitive ou non?
C'est les spécialités médicales en général, elles sont quand même assez attrayantes. C'est-à-dire que ça soit gynéco, que ça soit dermato, y a certaines spécialités comme ça. Après, c'est d'une année à l'autre, c'est aussi en fonction des étudiants, qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas. Est-ce que c'est plutôt une promo fille, une promo mec? Les garçons vont plus aller sur de la chirurgie. Là, de nos jours, il y a voilà, après, on n'y croit pas. Il y a beaucoup plus de filles en médecine.
D'accord.
Et donc, il y a beaucoup de... Bon, voilà, on aime aussi notre vie. Enfin, le boulot, c'est... Voilà, j'adore ce que je fais et c'est une chose. Mais aussi, on aime avoir une vie familiale. Donc, c'est sûr que urgentiste, voilà, pas tout le monde va le prendre, mais c'est vraiment fonction de ses désirs et de ce qu'on aime. C'est, après, il y en a qui partent moins, mais la gynéco, c'est plutôt quelque chose de bien aimé. Donc, ouais, rechercher.
Et du coup, alors, brièvement, ton expérience en tant qu'interne, tu vois, nous, on voit tous les shows télévisés, etc. On s'est dit, waouh, comment c'est la vie d'interne?
Alors, c'est vrai que c'est pas... Le métier de médecin, je pense, en général, n'est pas forcément valorisé. Hein. C'est pas en faisant médecin que... Enfin, si on a envie d'être riche, c'est pas médecin qu'on va prendre. Hein. C'est d'abord la passion, quand même. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait. Voilà, entre nous, on sait qu'on n'est pas payé, enfin, on est payé une misère pendant l'externat, donc avant l'internat. Et l'internat, c'est un petit peu au-dessus du SMIC, c'est pas énorme. Hein, et on fait des grosses horaires, les gardes, enfin, on bosse beaucoup en tant qu'interne. C'est pas facile. Pourtant, on est vraiment nécessaire.
Bah oui, donc en tant qu'interne, vous avez pas le droit, je veux dire, vous devez travailler quand vient, ben merci, vous s'en sous, les week-ends, les soirées et tout ça, vous avez moins de...
Ouais, bah en fait, après, ça dépend de la spécialité qu'on prend. Y a certaines spécialités qui n'ont pas de garde. Après, bon, la gynéco, oui, puisqu'on est en gynéco obstétrique, on fait des gardes. Bien sûr, les femmes, elles peuvent accoucher dans la journée, mais elles peuvent accoucher le soir. Donc, la nuit, il y a toujours des permanences. Et donc, oui, il y a, voilà, moi, je me rappelle, je suis plus troisième année, où j'ai fait des gardes tout le mois d'août, un jour sur deux. Enfin, c'est fatigant. C'est sûr qu'il y a des phases qui sont compliquées. Après, depuis, il y a des syndicats d'internes qui font que ça va de mieux en mieux, qui prônent pour que l'interne soit mieux reconnu. Voilà. Mais c'est vrai qu'avant d'être thésée, parce qu'on est thésée après l'internat.
Thésée, ça veut dire qu'on a des thèses.
Thésée, ça veut dire qu'on est docteur et qu'on est médecin et qu'on peut... voilà. Interne, on est toujours sous la coupe d'un chef au-dessus de nous. Il y a quelqu'un qui gère ce qu'on fait. On peut prescrire, ça veut dire qu'on voilà, on donne des ordonnances de médicaments et tout, mais il y a toujours quelqu'un au-dessus.
Ensuite, peut-être sur une fois qu'on est thésé, est-ce que c'est difficile de trouver un travail ou en fait c'est des trucs ça recrute à fond?
Non. Parce que il y a pas de difficulté à trouver un métier. Après, ça dépend. Il y a deux grandes choses quand on sort de la thèse et qu'on est docteur, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on veut être à l'hôpital ou est-ce qu'on veut être en cabinet ou est-ce qu'on veut être dans un centre de santé?
Donc après, c'est plutôt à ça de choisir.
Voilà, c'est plutôt en fonction de ce qu'on a envie de choisir, ce qu'on a envie de faire. Mais il n'y a pas de difficulté à trouver un travail après, non. Ça, c'est sûr.
Et du coup, alors, si on passe sur l'hôpital, et donc si on se consacre là-dessus, puisque tu as cette expérience-là, comment ça se passe en termes de conditions de travail, tu vois? Est-ce que, parce qu'en tout cas, de l'extérieur, on entend toujours les hôpitaux manquent de moyens, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui se retrouve aussi, toi, dans ta fonction en tant que gynécologue? Je veux dire, par là, peut-être sur la qualité des soins que tu peux apporter, le temps que tu peux passer avec chaque patiente. Est-ce que tu...
Oui, t'as raison. Non, ça, c'est pas que des échos, hein, c'est la vérité. C'est que y a un manque de moyens clairs à l'hôpital. Ça veut dire que pour avoir rien qu'un appareil d'écho neuf, enfin, il faut quémander. Enfin, c'est un peu dur. Après, moi, je suis responsable du centre. Donc après, j'ai aussi d'autres casquettes que juste la clinique. Nous, l'objectif, c'est de prendre en charge les patients au mieux. Donc nous, médecins, nous, l'équipe avec qui je suis, les sages-femmes, les infirmières, on va faire au maximum pour les patients. Après, oui, on a du mal des fois à avoir des moyens. Il faut justifier. On a l'impression que l'hôpital, c'est un peu une entreprise, alors que ce n'est pas le cas. C'est-à-dire justifier d'une rentrée d'argent pour obtenir des dépenses qui vont avec. Il faut que ça fasse un état d'équilibre, voire plutôt du positif pour l'hôpital. Donc, non, c'est pas facile tous les jours. Franchement, c'est pas facile, mais le travail, nous, en tant que médecins, il reste le même. Ça veut dire que on va dédier ce qu'il faut au patient, le temps qu'il lui faut, voilà.
D'accord. Et dans le privé, est-ce que tu considères que les conditions de travail, du coup, sont un peu meilleures ?
Ça, c'est un mythe. Hein. C'est pas parce qu'on va dans le privé que c'est mieux que dans le public. Hein. Ça, c'est vraiment pas le cas. Pourtant, voilà, je dis pas ça pour... c'est pas forcément bien pour moi, hein, mais voilà. Après, le privé, c'est toi qui t'achètes ton matériel, c'est toi qui prends à tes frais et tout, donc c'est différent, c'est pas la même chose.
Mmh.
Mais la clinique dans laquelle je bosse aussi, c'est pas... je pense que c'est plutôt cette question de directeur et de gestion des soignants et du matériel, ouais, les ressources disponibles en fonction de ce qu'on fait, alors que c'est de la médecine et que les patients ont le droit d'obtenir le meilleur. Mais
mmh.
Je pense que c'est ressources en général.
Mmh. On n'en a pas parlé, mais brièvement, quelles sont les différentes spécialités qui existent dans la gynécologie ? J'imagine qu'il y en a pas mal.
Alors, oui, il y en a pas mal. Bien sûr, celui qui va s'installer en ville, il va faire de la gynéco de ville. Qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire la patiente qui vient pour... parce qu'elle veut une pilule, elle veut une contraception. Le médecin, il a le rôle de lui expliquer les différents types de contraception. Il n'y a pas que la pilule, le stérilet, les préservatifs, etc. La patiente qui vient en suivi. Donc, ça veut dire, normalement, une patiente doit avoir un gynéco tous les ans.
Mmh.
Examen des seins, enfin voilà, c'est suivi gynéco d'une femme en période de procréation, quoi, on va dire de l'âge de ses règles, de 18 ans jusqu'à 50 ans. Ça, c'est, Ensuite, on a la personne qui vient parce qu'elle est enceinte. Donc, le gynéco va suivre la femme enceinte. Ensuite, on a le gynéco qui va voir la patiente au-delà de 50 ans, donc celle qui a la ménopause, avec les difficultés de la ménopause, essayer de pallier à tout ça.
Mm-hmm.
Et on a donc le gros que je... il y a une partie que j'ai pas parlé, c'est bon, bien sûr, il y a la gynéco-cancéro, c'est aussi de la spécialité, ça veut dire que dans la gynécologie, il y a des cancers aussi.
Mm-hmm.
Cancer du sein, cancer de l'utérus, et du coup, il y en a qui sont spécialisés, gynécologues spécialisés dans ça.
D'accord.
Et moi, donc, je suis gynécologue spécialisée dans l'infertilité, et donc ça veut dire que je suis amenée à avoir des patients parce qu'elles n'arrivent pas à avoir des enfants.
Mmh.
En gros, il y a pas mal de choses dans la gynéco, plusieurs branches. Il y a le choix. Moi, quand j'ai commencé la gynéco, je ne pensais pas que j'allais partir, que j'allais aller aussi loin dans la fertilité. Hein. Ah non, pas du tout. C'est en fin d'internat, parce que pendant son internat, on fait nos stages. Des stages obligatoires, des stages... on a 8 stages. Enfin, ça dure 4 ans, l'internat en gynéco-med, en gynécologie. Et du coup, pendant ces 4 ans de stage, je fais t'es interne tous les 6 mois, tu changes. Et du coup, moi, j'ai été en gynéco-obstétrique, j'ai été en gynéco-simple et j'ai été en tout dernier semestre gynéco-spécialisée de la fertilité. Et c'est là que je me suis dit, tiens, pourquoi pas.
Tu as l'occasion de toucher aux différentes branches pour voir comment tu te sens, quoi.
Mmh. Exactement.
Mmh, ça, c'est chouette. Et alors, sur les conditions de travail, pour en revenir, le stress. Parce qu'on s'imagine de l'extérieur que c'est une vie... déjà, vous avez quand même des responsabilités très importantes avec des opérations potentiellement à risque. Tu vois comment... Et aussi, ça, c'est le côté négatif, mais le côté positif, des émotions aussi débordantes d'assister à des moments de la vie des gens qui sont fondamentaux. Comment on gère ça ? Ça fait partie des cours, j'imagine, mais... Ça peut être un point qui stresse les gens à l'idée de faire ce métier.
Alors, moi, je pense que de toute façon, quand on veut être médecin, à part si on est médecin, biologiste et qu'on reste derrière un ordinateur, il faut quand même avoir cette fibre où on aime le patient. Hein. Ça veut dire qu'on aime le contact, on aime discuter, on est proche des patients. Ça, c'est clair. Si on a déjà peur, qu'on est un peu... Après, je ne dis pas, ça se développe. Hein. Mm-hmm. C'est sûr que quand on est tout jeune, qu'on est au lycée, on ne sait pas ce qu'on va faire plus tard. Mais il faut avoir cette fibre. Franchement, il faut aimer le patient. Parce qu'on a, on passe par des phases où on est en fait... ce qui est difficile et que je retrouve souvent avec les patients, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'on est là pour eux. C'est-à-dire qu'on n'est pas le supermarché du coin, on n'est pas là pour vendre du pain, on n'est pas là, on n'est pas leur banquier, on est quand même là à leur service. Mais des fois, on a l'impression qu'on est pris pour de la merde, hein, excuse-moi du terme, mais c'est un peu ça. Alors que franchement, on dédie notre vie à les aider. Donc vraiment, il faut aimer. C'est quand même, la médecine, c'est du social. Hein.
Ouais.
C'est quand même du social, voilà, médical. Mais après, moi, je travaille dans une partie de... Enfin, c'est pas Paris 16e, etc. Donc oui, ça dépend de la population, etc. Mais... Il faut aimer avoir le contact, il faut aimer, il faut être empathique, il faut vouloir donner de soi.
Mais donc, à l'inverse, il y a une charge mentale quand tu rentres chez toi et que, je ne sais pas, il y a eu une césarienne qui a mal tourné ou des choses comme ça. C'est des choses qui peuvent te peser aussi, quand même, dans la vie de tous les jours aussi, même en dehors du travail.
Ah oui, non, mais clairement, de toute façon, le boulot, c'est... On a du mal à faire la distinction boulot. C'est pas comme quand on sort du boulot de la banque ou j'en sais rien, quand on sort c'est fini. Non, on y pense encore. Et puis en fait, la médecine, on apprend toujours. Ça veut dire que même quand on rentre, même quand on continue, même voilà, moi ça fait 5 ans que je suis thésée. Ça me paraît loin et en même temps pas si loin, mais on se forme tout le temps. Ça veut dire que jusqu'à l'année dernière, donc nous, en médecine, on fait souvent des diplômes de surspécialité, etc. Et on se forme tout le temps. On lit des articles. Vraiment, la médecine, ça bouge. Hein. C'est pas la médecine d'il y a 5 ans, c'est pas la médecine d'il y a 10 ans. Et tous les jours, on apprend. Et donc, après, on essaie de faire. Hein. C'est dur, mais
ça fait partie,
on sait que la charge mentale, elle s'équilibre. Enfin, ça passe. Hein. De toute façon, il y a l'expérience. Au début, quand tu es novice, c'est un peu dur. Et au fur et à mesure... t'adaptes. Hein.
Et alors, l'équilibre vie privée, vie pro, parce que tu parlais des gens qui vont faire des urgences, donc toi, en l'occurrence, pour toutes les personnes qui veulent continuer d'avoir une vie, comment on fait?
Comment on fait? Ah, c'est la bonne question. Non, moi, j'ai eu cette chance où, en fait, je voulais rapidement pas faire de garde. Donc moi, je ne fais pas de césarienne. C'est vrai que c'est une chose dont je t'ai pas parlé dans gynéco, parce qu'il y a aussi tout ce qui est gynéco-chirurgie, mais là on est plus sur le chirurgien gynécologue qui va opérer les trompes, qui va opérer les ovaires, les fibromes, les césariennes, etc. Moi, j'ai vraiment pas eu, j'avais pas cette fibre chirurgien, donc j'ai fait la chirurgie comme il fallait pendant que j'étais interne, et après mon choix c'était la PMA. La PMA, j'aide les patients à être enceintes, je peux les opérer, mais c'est des petites chirurgies. Et après, bon, je suis sur un statut où maintenant je suis responsable, donc j'essaie de pas trop bosser le week-end. Là, je fais plus de garde, donc je bosse pas la nuit. Vraiment, je sais pas si on parle de sa vie perso, mais bon, j'ai mis une discipline
qui est que voilà.
Ah ouais, moi j'aime mon boulot, alors ça c'est sûr, mais j'aime encore plus ma famille. Ça, pour rien au monde, tu vois plus tes enfants, tu bosses tout le temps. Non, après, c'est sûr, je bosse beaucoup, mais parce que j'aime ce que je fais, vraiment, c'est parce que j'aime ce que je fais. Après, je bosse du lundi au vendredi. Enfin, mes filles. Enfin, je commence tôt le matin. Le soir, j'essaie d'être là pour mes filles. Le week-end, je bosse le samedi matin, mais c'est tout.
D'accord.
Le samedi matin, une fois tous les 15 jours, quand on est d'astreinte ou des choses comme ça. Mais on peut avoir sa vie. Et c'est sûr que ceux qui ont des doutes sur la vie de médecin, il n'y a pas de vie. Enfin, voilà, tu t'installes en ville, ou que tu sois hospitalier ou que tu t'installes en ville, tu as toujours le choix de prendre le temps que tu as envie. Hein.
En termes de relations aux patients, tu vois, tout à l'heure, tu as dit, c'est du social. Il y a toute une partie, en plus, j'imagine, dans la gynécologie, de psychologie, parce que tu touches à l'intime, les gens viennent te parler, c'est quand même des sujets... comment vous gérez un peu ça? Tu vois, par exemple, il y a des femmes qui veulent avoir affaire à que des femmes face à elles, pour ces questions d'intimité, tu vois. Vous pouvez avoir des gens, tu vois, qui... Il y a toutes sortes de psychologies des gens, tu vois, et donc en fait, en plus d'être médecin, il ne faut pas juste être technique, il y a tout un truc d'accompagnement, comme tu dis, d'empathie.
C'est vrai.
Et ça, c'est enseigné ou tu l'apprends sur le tas?
Tu l'apprends sur le tas. Non, franchement, nous, quand on rencontre une patiente quand je rencontre une patiente pour la première fois, il y a toujours cette phase où on prend connaissance de la patiente. Et donc, dès les premières minutes, je vais lui demander, madame, vous avez quel âge? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Donc, tout de suite, je vais me placer dans ce qu'elle fait. Je vais essayer de voir ce qu'elle est. Enfin, voilà, elle va me dire, je suis pharmacien je vais tout de suite voir à qui je m'adapte et mon discours va s'adapter à la patiente. Et au fur et à mesure, parce que voilà, il y a quand même plusieurs questions avant de l'examiner. c'est vraiment, on fait un peu connaissance et c'est à ce moment-là que je m'adapte et que et qu'on individualise. C'est pas à la chaîne, vraiment. On fait en fonction de la patiente qu'on a en face de soi, en fonction de ses connaissances, parce que la médecine, c'est pas, voilà, même aujourd'hui, j'ai l'impression que des fois, j'oublie ça vite. J'oublie que c'est quand même, des fois, j'explique par des mots simples. Et vraiment, on essaie de faire au max. Si j'ai une patiente qui j'ai l'impression et comprend un peu mieux ou quoi, bah, je vais pousser un peu plus. Donc, non, c'est pas, on apprend sur le tas. Vraiment, ouais. On apprend sur le tas.
Et alors, il y a un autre sujet sur le côté relation aux patients, c'est les violences obstétriques.
Les violences obstétricales.
Obstétricales, pardon. c'est une réalité, c'est pas une réalité, qu'est-ce que t'en penses?
Non, je pense qu'on a fait une réalité de quelques cas. C'est sûr qu'il y a peut-être des gynécos un peu anciens, un peu rudes, mais c'est plus nos cas, franchement. Les patientes, moi j'étais un peu outrée quand j'ai entendu ça parce que, comme je t'ai dit, ça reprend un peu ce que j'ai dit avant, c'est que nous on est là pour les patients, on n'est pas là pour en faire des victimes ou pour les charcuter ou quoi. Les violences obstétricales, ça concernait surtout les épisiotomies. Ça veut dire que les patientes, quand elles accouchent par voie naturelle, on peut être amené à faire une incision, enfin à couper un peu au ciseau une partie au niveau du vagin, enfin de l'entrée de la vulve si le bébé a du mal à passer.
D'accord.
Mais on va pas le faire en systématique, on va le faire si vraiment on voit qu'il y en a besoin. Et c'était parti sur une dérive que toutes les patientes avaient une épisio systématique. Les patientes, moi je sais que j'essaie vraiment d'être, je vais faire le contexte vierge ou pas vierge, il n'y a pas d'examen gynéco. Après, il y a des pas vierges vaginiques, donc les patientes qui ont des difficultés à des rapports sexuels ou des choses comme ça. Enfin, là, je prends des exemples, mais on n'est pas du tout dans la violence obstétricale, on est plutôt dans l'écoute de la patiente. Si elle ne veut pas être examinée, on ne va pas forcer. Enfin, voilà, on n'est pas du tout dans ça.
Et qu'est-ce que tu penses du rapport à l'accouchement? Est-ce que ça aussi, il y a un effet de mode, un peu certaines personnes veulent certaines méthodes ou quoi que ce soit. Est-ce que ça existe, ça? Tu constates ça?
Oui, pas trop. Enfin, il y a eu un moment là, non, moins ces derniers temps, mais oui, il y en a qui. Après, c'est le choix de la patiente.
Bien sûr.
C'est elle qui choisit. Elle veut accoucher sans péri, elle accouche en péri. Elle veut accoucher.
Péridurale.
Elle. Bon, moi, je suis pas trop pour l'accouchement à la maison, mais. Voilà. Après, il y en a, par exemple. Je ne sais pas si on aura de citer des noms, non, pas du tout. Mais bon, il y a des hôpitaux sur Paris qui sont pro-accouchement dans l'eau et tout. Voilà, si les patientes, elles aiment ça, elles vont y aller. Après, ce n'est pas la pratique de tous les hôpitaux. Donc, c'est sûr que si elle va dans un autre hôpital, on va dire « Ah ben non, on n'accouche pas dans la baignoire ici. » Mais il y en a qui le font.
D'accord, il n'y a pas réellement de vérité sur ces sujets-là. C'est plus des sensibilités personnelles. Il n'y a pas une méthode qui est meilleure, connue pour avoir des meilleurs... bénéfice pour l'enfant ou quoi. Ça, c'est pas prouvé, en tout cas. Et sur la question du consentement, parce que tu vois, sur ton truc des épisiotomies, sur les violences obstétricales, qui est dit parfois, c'est qu'on leur demande pas leur consentement, on leur explique pas suffisamment, etc. Toi, c'est quelque chose, ça fait partie de tes procédures.
En fait, il y a des choses, et effectivement, il y a comme un astérix, entre guillemets, ça veut dire qu'il y a des moments où on n'est pas obligé de demander le consentement à la patiente, notamment quand on est dans des phases d'urgence où ça met en danger la vie de quelqu'un. Et là, autrement, ça met en danger la vie du bébé. Donc, on ne va pas lui demander, madame, on peut couper là, parce que le bébé n'arrive pas à sortir, on le fait.
D'accord.
Si le bébé, il est en train de... son cœur, il commence à diminuer, on va lui dire, on va faire une césarienne. Mais ça nous paraît, si elle nous dit non, le bébé, il va mourir, quoi. Cette petite astérix, c'est quand ça met la vie en danger de quelqu'un, qu'on fait quelque chose hors consentement.
Ensuite, la chose aussi que je me pose comme question sur relation aux patients, c'est le scepticisme autour des médicaments, notamment la pilule. Les pilules des troisième génération et autres. Et en plus aussi le rapport à Internet, c'est les gens qui s'informent sur Internet, donc vous devez gérer les informations obtenues un peu n'importe comment, les Voilà, ça fait partie du côté psy aussi un peu de...
Tu t'es bien renseignée sur... La contraception a été un gros débat il y a 10 ans à peu près, enfin entre 5 et 10 ans. Là, ça commence à tarir un peu. Effectivement, il y a eu toute cette histoire autour de la pilule parce que ça donne des risques de phlébite. Donc les phlébites, c'est des caillots dans les veines qui peuvent remonter dans le cœur et faire des embolies pulmonaires. Et donc effectivement, ça peut être dangereux. Voilà, ça a été quand même bien comment dire, codifié il y a ces quelques années, là où il y a eu ce gros souci. La pilule, c'est quand même des hormones à très faible dose, ce qu'on sécrète déjà dans notre corps. Les risques, la balance bénéfice-risque, elle est faite au moment de la consultation avec le gynéco, qui va bien sûr demander à la patiente est-ce qu'elle a des antécédents, est-ce qu'elle a des contre-indications à la pilule. Et bien sûr que si elle en a, on lui mettra pas. Mais non, les risques de grosse, les risques par rapport à la pilule sont hyper faibles par rapport au risque de grossesse et d'avortement conséquent derrière parce que la patiente ne veut pas son bébé.
Donc la recherche a avancé suffisamment pour qu'on sache que c'est sûr et qu'il n'y ait pas de débat à avoir particulier là-dessus. Ok. Dernier point sur le sujet est vraiment spécifique à ton métier. C'est sur la recherche. Donc moi, je suis très intéressée, par exemple, et puis ça rejoint un peu ton point sur la formation, l'endométriose, par exemple. Il y a des gynécos qui ne connaissent pas. tu vois, et donc, et il y a aussi toute une question de pourquoi la recherche n'avance pas pour comprendre cette maladie, en l'occurrence, cette maladie qui est liée donc, à des douleurs menstruelles. Pourquoi ça n'avance pas et pourquoi tous les gynécos ne sont pas au fait de ces sujets?
Alors, l'endométriose, c'est un gros sujet. La recherche dans l'endométriose avance.
Ah bon?
Mais bien sûr qu'elle avance. Après, il y a encore beaucoup de choses qui sont méconnues. L'endométriose, c'est une pathologie, effectivement, de l'endomètre et qui va entraîner des douleurs pendant les règles, des douleurs pendant les rapports sexuels et d'autres douleurs, enfin voilà, et effectivement des conséquences sur la fertilité. Donc, l'endométriose n'est pas connue par tout le monde. Mais elle est connue quand même par les spécialistes de la fertilité, c'est sûr. Et c'est sûr que même au jour d'aujourd'hui, moi-même, il y a des choses que je ne connais pas. Pourtant, voilà, on va s'instruire, on va regarder les articles, etc. Mais c'est une pathologie inflammatoire qui, aujourd'hui, où il y a des choses qu'on ne connaît pas encore. On avance, on essaie de voir d'où ça vient, on essaie de trouver des solutions, mais malheureusement, on n'a pas encore toutes les cartes en main. Mais il y a beaucoup de choses qui sont connues en 5 à 10 ans. Il y a déjà bien plus de choses qu'avant. C'est une maladie qui est quand même beaucoup plus connue et reconnue qu'avant.
Mais donc, dans la formation systématique de tous les gynécologues, au cours de la vie, après qu'ils aient eu leur diplôme, c'est obligatoire ou c'est au fait de chacun? Tant et si bien que certains...
C'est partie de ce qu'on connaît quand même.
Oui, en général.
On sait quelque chose qu'on apprend. Mais après, il faut être dans la fertilité ou dans la chirurgie, parce qu'il y a la chirurgie de l'endométriose qui fait qu'on va se spécialiser.
Ok. Sur la recherche aussi sur l'infertilité et sur les causes inexpliquées de l'infertilité, là aussi, en tout cas, ma question plus générale, c'est est-ce que là, comment vous faites en sorte de bien vous imprégner de ça dans votre pratique et nous rassurer, entre guillemets, sur l'avancée de la recherche pour résoudre certains problèmes qui restent quand même très fréquents, potentiellement.
En fait, la fertilité, c'est un gros domaine. Hein. Ça veut dire que nous, après les 10 ans de gynéco, tu veux être spécialisée en la fertilité, tu dois encore faire 2 ans.
Ah.
Donc, il y a encore un diplôme derrière qui fait que tu es médecin de la reproduction. Donc, moi, je suis gynéco, médecin de la reproduction. Et après ces 2 ans, tu vas pratiquer la fertilité. Et ensuite, il faut savoir que nous, en tant que médecins, on a des congrès. Ça veut dire qu'on a des congrès nationaux ou internationaux. Bon, là, Covid fait qu'il n'y a pas d'internationaux, ou même qu'il n'y a pas du tout de congrès, mais en gros, il y a quand même une formation. On est toujours en train de... En fait, il y a toujours des études. Ça veut dire que moi, au jour d'aujourd'hui, dans mon centre, je fais des études avec des internes. C'est-à-dire que quand on fait des études, quand on est thésé, enfin, quand on passe sa thèse, on fait une étude, en fait. Souvent, on fait des études. Et donc, moi, je prends des internes sous ma coupe et je leur fais faire des études. sur les patientes actuelles pour voir qu'est-ce qu'on peut améliorer, en fait. Donc, on est toujours en train de chercher. Et pour la fertilité, c'est la même chose. C'est que ça soit en Espagne, enfin partout en Espagne, en Belgique, partout, que ce soit en France, il y a plein de gens qui font des études. Sauf que ça ne se voit pas clairement parce que ça prend du temps, les études, et que ça peut être juste des réponses infimes. Mais on cherche tout le temps les... On a effectivement les infertilités sur lesquelles on sait, les trompes qui sont malades, le sperme qui n'en a pas assez. Et effectivement, on a cette part un peu d'infertilité inexpliquée, idiopathique comme on l'appelle, on ne sait pas trop. Mais on fait tout pour chercher, c'est-à-dire qu'il y a des études, il y a plein de choses qui se travaillent, et l'objectif c'est de trouver, mais c'est comme dans tout en médecine, hein, il y a pas réponse à tout.
Et sur ce truc de la recherche aussi, tu vois, par exemple sur les maladies du fœtus, on pourrait se dire qu'on pourrait aller toujours plus loin dans analyser qu'est-ce que le fœtus a comme maladie,
la génétique, etc. Ouais. La génétique.
Ouais, et parce que je dis-moi si je me trompe, mais peut-être dans certains pays on va tester plus de choses, tu vois, sur l'état du fœtus.
Parce que je voulais rebondir sur ça, c'est que tu disais qu'il y a une partie d'inexpliqué qu'on ne connaît pas, etc. Mais il faut savoir qu'en Espagne, enfin nous en France, on est très en retard sur la prise en charge et sur les droits qu'on a le droit de faire. C'est-à-dire que là, je ne sais pas si tu as suivi l'année dernière, là ou encore cette année, il y a la loi de bioéthique qui change. Enfin, du coup, il y a la PMA qui va être autorisée aux femmes seules et aux femmes homosexuelles. Ça n'existait pas avant. Mais il faut savoir que ça existe depuis 10 ans en Espagne, ou même plus.
D'accord.
C'est comme nous, le mariage homosexuel, il est passé il n'y a pas si longtemps, mais il y a d'autres pays depuis très longtemps. Et donc, une chose sur laquelle c'est vraiment important, c'est le diagnostic. Ça veut dire étudier les gènes du bébé alors qu'il est encore embryon. Et bien ça, en France, ça ne se fait pas. Alors que ça se fait en Espagne ou en Belgique ou ailleurs. Et ce qui fait que si on étudie l'embryon et qu'on voit qu'il a une maladie, on ne va pas le transférer. Mais en France, on va tout transférer. Donc, c'est ça qui fait que ça ne s'accroche pas. Mais en amont, si on avait fait le test génétique, on aurait vu qu'il y avait une trisomie 21, par exemple, ou j'en sais rien, une maladie, et bien, du coup, on n'aurait pas transféré. Ce qui se fait en Espagne, mais qui ne se fait pas actuellement en France.
Ouais. Et donc, toi, est-ce que ça fait partie de votre métier en tant que gynécologue aussi, de pousser justement à l'évolution de la réglementation?
Oui.
Pour aussi faire en sorte que même des maladies rares soient aussi testées pour éviter des drames humains, hein, tu vois, faire simple.
Non, on est toujours là à essayer de promouvoir et de se batailler pour améliorer tout ça.
Ok, bon, alors on va passer aux questions plus générales, typiques, qu'on pose toujours à tous nos professionnels. Quelles sont les qualités requises d'après toi pour exercer ce métier?
Pour être gynéco?
Ouais.
Être sociable. Être bienveillant. Et puis être organisé quand même aussi.
Ok. Et en termes de source de satisfaction, qu'est-ce que tu dirais? Alors, on s'imagine très bien. Déjà, est-ce que les gens, ils te font un retour? Les gens, ils t'envoient des photos de leur enfant?
Ah non, mais moi, j'adore. Moi, je suis tellement heureuse quand je... Bien sûr, les retours de patients, j'en ai plein. Et oui, j'ai soit des patients qui vont venir me montrer leur bébé. Donc ça, c'est vraiment la satisfaction. C'est-à-dire que moi, je suis contente parce que j'ai pris une spécialité. Dans la médecine, il y a plein de spécialités. Hein. Mais la spécialité que j'ai pris, c'est une spécialité pas triste, en fait. C'est jamais malheureux. Ça veut dire que si malheureux... Donc moi, mon objectif...
Il y a quand même des fausses couches, non? Enfin,
oui, oui, bien sûr. Ce que je vais te donner la comparaison, c'est que mon objectif, moi, c'est qu'elle ait un bébé. Ça, c'est vraiment mon objectif. Donc quand elle a un bébé, je suis heureuse. Et que en fait c'est vraiment un bonheur donné aux parents, et ils te le montrent bien. Si elle n'est pas enceinte, bon, elle n'est pas enceinte, j'aurais fait tout ce que je peux, ça veut dire vraiment j'ai fait le maximum, mais malheureusement il y a des choses que je ne fais pas. Mais c'est pas une prise en charge d'un cancer, c'est pas la personne va, enfin, est en fin de vie ou va, voilà. Donc c'est quand même une spécialité qui est bien, ça veut dire qu'elle est il y a beaucoup de reconnaissance quand ça marche. Et quand ça marche pas, bah, malheureusement c'est quand même pas, voilà, ils peuvent continuer, il y a l'adoption derrière, ou il y a d'autres choses, on fait le deuil du bébé, et puis on passe à autre chose. Mais moi, en tout cas, voilà, je suis tellement, c'est une joie, c'est-à-dire que les patients, j'ai les faire-part, les photos, j'ai des tableaux entiers de bébés, les patientes, elles viennent, elles me montrent leur bébé, enfin, c'est, et puis, c'est un enfant, c'est un enfant, donc ils te remercieront jamais assez. Ils sont tellement heureux que.
Non, et d'ailleurs, les taux de succès, peut-être nous donner quelques stats, tiens, sur, par exemple, la FIV, c'est quoi le taux de succès?
Il faut se resituer que déjà, en fertilité naturelle, c'est 25% par cycle.
Ah. Mmh.
Ça veut dire qu'on a une chance sur quatre d'être enceinte par mois. Ça, c'est la nature.
Mmh.
Bah, en FIV, on est à 40%. Ça veut dire quasiment une chance sur deux.
D'accord.
Mais on ne va jamais faire du 100%.
Bien sûr. Mais le niveau de complications derrière, même si la FIV a marché, c'est-à-dire que le bébé était conçu, après les complications derrière sont faibles?
Très, très faibles. Il n'y en a pas. Ça rejoint une grossesse normale.
D'accord. Okay. Et en termes de fausses couches, c'est quoi les stats? Parce que je trouve que ce qui est important, en tout cas de l'extérieur, c'est aussi de communiquer. Il y a tout un truc, je pense, sur la communication, sur la gynécologie, au sens où les gens ne doivent pas se sentir isolés ou penser que « Oh, je suis la seule personne à avoir une fausse couche », etc. Ce sont des faits fréquents, il y a des chiffres qui le montrent.
C'est alors, la fausse couche, donc, ce que je dis souvent aux patientes, c'est que ça soit de la PMA ou pas, une femme fait une fausse couche dans sa vie très, très souvent. Ça veut dire que c'est très fréquent, la fausse couche. C'est-à-dire que 30 à 40% enfin, va faire une fausse couche dans sa vie. Nous, on commence à pousser un peu le bilan chez une patiente si elle a fait plus de 2 à 3 fausses couches.
D'accord, donc c'est pour dire qu'à quel point c'est vraiment...
Ouais.
Donc effectivement, toi, tu n'as pas beaucoup de taux d'échec et donc effectivement, tu es assez heureuse dans ta spécialité parce qu'il n'y a pas beaucoup de drame. Quoi.
Voilà, c'est ça.
Ok. Et les difficultés? Donc, on en a un petit peu parlé, mais est-ce qu'il y en a d'autres qui sont importantes à se connaître quand on veut se lancer dans ce métier? On n'a pas parlé du salaire, par exemple.
C'est long, hein.
Le salaire, tu as dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas être riche.
Bah, le salaire, il ne faut pas vouloir beaucoup d'argent avant d'être en milieu de carrière, au moins. Hein. Ça, c'est clair que...
On parle de quelle fourchette en entrée de... en début de carrière?
Alors, en début de carrière, enfin, en tant qu'interne, donc on est sur en début d'internat, on est sur du 1004 net, on va dire.
Mmh.
En fin d'internat, on est sur du 1008 net.
Mmh.
En début de carrière, à l'hôpital temps plein, on est sur du 2003 net.
Ouais.
Après, il faut savoir que après tu montes en échelon quand tu es à l'hôpital. Et du coup, si tu restes en temps plein à l'hôpital, tu peux monter jusqu'à 3 500, 4 000 net, on va dire, quelque chose comme ça. Mais
au bout de combien de temps, tu penses? 10 ans?
Ouais, au bout de 10 ans quand même.
Mmh.
Et après, c'est sûr qu'on va potentiellement aimer être en libéral, parce que le libéral, tu gagnes plus d'argent. Mais il faut savoir que le libéral, il y a des charges. Il y a beaucoup de charges. Ça veut dire que on va dire que sur du... C'est difficile à dire, mais sur 100%, enfin, tu gagnes 50% parce que tu as 50% que tu reverses à l'URSSAF, etc. Plus après, tu as les impôts. Et du coup, il te reste 50% dans ta poche. Et clairement, bon, on va dire que si tu sors... parce qu'il y a un truc que je n'ai pas dit, quand tu sors de l'internat, tu n'es pas obligé soit faire hôpital, soit faire installation en libéral. Tu peux remplacer
un collègue.
Et donc, sur des remplats en début de carrière ou sur une installation en début de carrière, en enlevant toutes les charges, tu peux être peut-être à entre 3 500 et 4 000 net.
Ah, en libéral quand même, ça c'est pas mal, effectivement. Tu vas beaucoup
en
plus
libéral,
vite que dans le... Mais quels sont les aspects négatifs d'être en libéral? Il faut donc alors tout le marketing, en tout cas, vous
vous
inscrivez sur
d'autres
lits. Ouais, c'est vrai.
Seul, ça veut dire que tu dois louer un cabinet, tu dois louer le matériel, gérer ton matériel, prendre une secrétaire. Donc là, non, c'est différent. Hein.
Ouais, il y a un peu de business en fait aussi
à
gérer.
Il y a un peu de business, c'est différent dans la façon de gérer les choses.
Mais les gens, la plupart des gens font les deux. Parce que toi, donc, tu es un peu sur les deux. La plupart des gens aiment avoir un pied des deux côtés. Okay.
Bah en fait, l'hôpital, ce qui est bien, c'est que tu te formes. Tu es toujours en train de te former. Tu es toujours à la dernière page. Tu vois, tu gères des internes qui sortent de l'école, entre guillemets. Donc, qui ont appris des choses que toi, tu n'as pas appris. Enfin, voilà, à l'hôpital, tu as une équipe. Donc, c'est, je trouve plus le mot, mais
on est lié. Il y a une stimulation que tu es
vivant et tu essaies de t'améliorer. En privé, tu es un peu seul dans ton cabinet. Enfin, après, oui, tu peux faire. Ça devient plus poussé, mais tu peux te mettre en collaboration avec quelqu'un, faire, tu vois, tu t'associes à quelqu'un, tu te mets avec un autre médecin, mais c'est pas la même chose.
D'autres difficultés, à part le salaire, effectivement, on a dit la longueur des études, 12 ans, pour pouvoir tenir, c'est vrai. D'autres choses auxquelles on ne pense pas, surtout les choses auxquelles on va se sentir, on a plein de clichés sur ce truc, on se dit... En tout cas, on n'a pas de clichés négatifs, on a plutôt des clichés positifs. Mais est-ce qu'il y a d'autres difficultés auxquelles on ne pense pas, qu'il est important de savoir ? Toi, par exemple, pour lesquelles tu as été surprise une fois que tu as exercé le métier ?
Les difficultés, moi, comme je gère un centre, là, les difficultés quand même que l'hôpital te met, hein, les bâtons dans les roues qu'on peut te mettre, alors que franchement, la seule chose que tu veux, c'est prendre en charge ton patient, c'est tout. Donc, il y a un peu ça, ce côté un peu moyen financier. Les ressources qu'on te met à disposition pour bien prendre en charge un patient.
Et aussi, ça, peut-être le côté managérial, non ? Je veux dire, il y a les sages-femmes, il y a plein d'autres personnels soignants à gérer aussi autour de vous.
Ouais. Bah après, ça, c'est parce que je suis sur un poste de responsable, mais les médecins avec qui je bosse, qui sont juste médecins, ils ne vont pas forcément gérer. Donc,
quand tu es juste médecin, tu as quand même peut-être une responsabilité au moins d'une sage-femme ?
Non,
elles sont pas. Il n'y a pas de.
Vous avez entendu, il n'y a pas de hiérarchie. La sage-femme, c'est une sage-femme. Okay. En gynéco, oui, c'est un peu difficile, c'est un peu particulier parce que t'as la sage-femme, elle n'est pas en dessous du gynéco.
D'accord.
Non, non, parce que ça, elles vont très mal le prendre hein, si elles entendent ça. Ça ne va pas le faire du tout. C'est différent. Elle, en fait, le rôle de la sage-femme, bon, moi, je ne suis pas sage-femme, mais j'en ai dans mon équipe. La sage-femme, c'est la prise en charge de la femme et de l'accouchement physiologique. Elle veut dire de l'accouchement qui se passe bien. Si l'accouchement se passe bien, la personne qui accouche ne voit même pas le médecin.
Ah, ok.
C'est important de le souligner. C'est-à-dire que la sage-femme, elle gère l'accouchement de A à Z. Le médecin, il est appelé s'il y a un problème à l'accouchement. Ça veut dire que bébé ne veut pas sortir et du coup, on met des forceps, des choses comme ça. Il ne veut vraiment pas sortir, c'est césarienne, mais ça, c'est le médecin, effectivement.
Good to know, c'est bon à savoir. Mais maintenant, ça va inquiéter les gens dès qu'on voit le médecin. Mais pourquoi il est là ? Okay. En termes d'évolution de carrière, donc on a dit on démarre, on peut après soit passer, enfin on peut en tout cas être en cabinet, on peut être à l'hôpital. Est-ce qu'après il y a une évolution aussi on va devenir chef, donc toi en l'occurrence tu es chef de ton unité, il y a d'autres types d'évolutions possibles ?
Après chef de l'unité, tu peux être aussi. Après il y a deux branches, c'est-à-dire que moi je suis dans un hôpital qui n'est pas universitaire. Après tu as la branche aussi universitaire, ça veut dire. Je donne juste des exemples de noms, même si ce n'est pas l'objectif, mais il y a l'hôpital Robert-Debré ou l'hôpital Cochin, ça c'est des CHU, des centres hospitaliers universitaires. C'est-à-dire que les étudiants, les médecins qui sont les médecins responsables, le chef de service de gynéco ou quoi, il va aller donner des cours à l'université.
D'accord.
Ça c'est l'autre branche dont je n'ai pas parlé, parce que moi du coup, je n'ai pas du tout cette branche universitaire, mais tu peux faire ça. Mais du coup, de façon parallèle, alors que c'est déjà assez long, de façon parallèle à nos études de médecine, on fait des masters. Et du coup, ça permet en fait d'avoir cette branche. Et du coup, d'être moi, en fait, je suis responsable d'unité PH, donc c'est-à-dire praticien hospitalier. Mais on peut être aussi PU-PH, c'est-à-dire praticien universitaire ou praticien... Donc, ça veut dire qu'on a cette casquette
en
de université.
Donc, toi, là, tu aurais pu faire 12 ans et un master en... En
parallèle, pas 12 ans, mais en parallèle
Ça, c'est déjà.
Du coup, là, tu fais effectivement des études, tu enseignes en amphithéâtre, les cours et tout.
Ça, c'est une des voies.
Ça, c'est une autre branche complètement différente, mais voilà. Et puis, bien sûr, après le chef d'unité, tu peux être chef de service. Ça veut dire vraiment. Là, moi, je suis responsable de l'unité de PMA, mais au-delà de l'unité de PMA, il y a le service de gynéco-obstétrique. Toute la gynéco.
Et quand on est chef de service, on reste toujours dans le soin ou on est vraiment qu'un manager ?
Si, on peut rester. On aime bien toujours être un peu dans le soin quand même. Hein. Ça veut dire que C'est ça, c'est que tu sois chef de service ou chef d'unité. Moi, j'ai moitié de temps où je fais de la clinique parce que j'aime encore voir les patientes, et j'ai la moitié du temps où je vais gérer et manager.
Mmh. D'accord. Et alors, la dernière question, c'est sur l'avenir de ce métier. Est-ce que tu penses que dans 10 ans, il sera pratiqué d'une autre manière ? Évidemment, la médecine va évoluer d'ici là, on espère. Mais est-ce qu'il y a d'autres types de changements que tu peux déjà prévoir ? C'est-à-dire, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un usage des technologies, tu vois, dans les hôpitaux qui peut être fait, qui peut changer la façon dont vous recevez les patients ? Probablement qu'il y a des choses à faire d'un point de vue...
Non, il y a beaucoup de choses. Après, là, il y a l'informatique qui se développe et tout, et... on a beaucoup de congrès sur l'intelligence artificielle. Donc, ça veut dire qu'il y aurait peut-être des logiciels qui vont nous aider à mieux prendre en charge les patients via des algorithmes, des choses comme ça.
Donc, les données des patients qui seraient analysées, qui vous permettraient déduire, de prédire potentiellement.
Exactement, prédire la réponse, des choses comme ça. Quel est le traitement adapté à la patiente ? Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, on a un robot aussi au bloc opératoire. Enfin, il y a déjà plein de choses qui vont forcément se développer au niveau intelligence artificielle.
Et comment vous le percevez ? C'est que vous le percevez comme un accompagnement en plus de votre connaissance, ou ça va être vocation à vous remplacer dans une logique de gestion, de restriction budgétaire ?
Comme les caissières à Carrefour, par exemple.
Ouais.
Non, franchement, c'est plutôt de l'accompagnement. Et de toute façon, la médecine, on n'est pas inquiet. Hein, on sait que...
Il y a vraiment une dimension humaine de toute façon.
Mmh. Oui, il y a une dimension humaine, c'est exactement ça. Il y a ce côté-là qui ne sera jamais remplacé par un robot. Donc, non, je pense que oui, il y aura forcément ce côté informatique qui va se développer. Ça continue, et là, avec le contexte encore plus, par exemple, la téléconsultation qui a explosé, etc. L'informatique, c'est clair, mais...
Et des réglementations sur le sujet de la PMA, en l'occurrence, là, peut-être... là, on voit bien que la loi bioéthique peut changer un peu certaines pratiques. Il y a d'autres réglementations.
On espère que... Donc là, ce qui a été validé, c'est la PMA pour les femmes. Mm-hmm. Ce qui n'a pas été validé, donc, c'est les tests génétiques sur l'embryon. Ça, j'espère que d'ici peut-être la prochaine loi bioéthique, ça va être discuté et que ça va être validé. Il y a ça, et peut-être que ça ne sera pas jusque-là, mais la PMA, il y a la gestation pour autrui, je ne sais pas, ça ne dit peut-être pas grand-chose aux gens, mais ça veut dire que c'est une mère porteuse. La mère porteuse, ça, ce n'est pas fait en France, mais ce n'est pas fait non plus en Espagne, c'est fait en Grèce, notamment aux États-Unis, mais pas partout. Donc peut-être, ça, je ne sais pas. Après, il y a une question un peu d'éthique, est-ce qu'on trouve ça éthique ou pas. En France, je pense qu'on n'est pas, on va pas encore franchir ce cap, parce que la GPA, c'est quand même payer une mère porteuse.
Ouais.
En France, on
prône... Il y a commercialisation du vivant.
Ouais, il y a commercialisation du corps et de l'organe. Et en France, on prône la gratuité et le don, le don de soi. Donc, je pense pas ça.
Top. On a fait le tour. Est-ce que tu as un dernier conseil à donner à une personne comme toi, il y a quelques années, qui y pense ? Conseil ou un message à faire passer ?
Il faut, c'est sûr que quand on est, j'arrive pas à me retourner 20 ans en arrière, je me souviens plus, mais en tout cas,
faut s'accrocher. La route est longue.
S'accrocher, il faut aimer ce qu'on veut, enfin, il faut savoir ce qu'on veut, et il faut pas abandonner au moindre petit truc. Et les opportunités, elles se font parce qu'on les crée, et voilà.
Top.
Tout simplement.
Eh ben, un très grand merci à toi, mais c'est très riche. Moi, je reste tout à fait impressionnée et époustouflée par ce métier. J'espère que ça va en inspirer plein, et y compris en reconversion, même si c'est un métier qui est très très long à faire, mais pourquoi pas ? Ça existe, les gens qui se sentent inspirés, qui ont envie de se lancer dans cette carrière. Un grand merci à toi.
Et voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à aller nous retrouver sur notre site www.desorientés.fr et à nous suivre sur les réseaux sociaux au nom des Désorientés. Vous pouvez aussi laisser un avis 5 étoiles sur les plateformes d'écoute de podcast et surtout faire tourner l'info. Partagez-la auprès de tous ceux que vous connaissez. On essaye d'aider le plus grand nombre à faire les meilleurs choix d'orientation. À très vite.